Ce qu'on va faire cette semaine, on va se réchauffer, on va se nourrir de la parole de Dieu. Et puis, merci à Julien qui a présenté de la louange, qui a passé une petite semaine un peu grippée aussi. Alors, c'est une des raisons pour laquelle Élise, étant donné que dans le mariage, on se partage tout ou presque, Élise, elle a attrapé ce qu'il avait. Alors, elle n'est pas avec nous ce matin, cet après-midi. On va prendre du temps, c'est passer un peu de temps sur le sujet du repas du Seigneur. Et je pense que, comme protestants évangéliques, on a peut-être un certain malaise avec la manipulation de la matière, la manipulation des objets qui sont symboliques. On n'a pas de liturgie comme telle, on n'a pas de liturgie écrite, définie, je dirais, officielle, n'est-ce pas, parmi les évangéliques. Et donc, quelquefois, on est un peu mal à l'aise de savoir le repas du Seigneur, comment on le fait. Et après plusieurs années de pastorat, je me souviens, on se posait encore des questions parce que on se disait avec le conseil d'église, pas ici, mais dans une autre église, j'étais passé dans une autre église, et puis on se disait, est-ce qu'on fait le repas du Seigneur avant les annonces, après les annonces, dans le milieu du message, après le message, avant le message, et est-ce qu'on prend du pain sans levain, du pain avec levain, est-ce qu'on prend du vin, pas de vin, est-ce qu'on a des petites tasses, bon, peu importe, et on a quand même une espèce de malaise, on ne sait pas trop. Et puis, moi, j'ai visité plusieurs églises dans ma vie, et puis, on a vécu en France pendant quelques temps, et c'est rien posé contre la France, hein, là, je vous le dis tout de suite. Vive la France! Vive la France! Vive la République! Mais, ayant vécu là, j'étais étudiant en théologie, puis on allait dans une petite église locale, tout près de la faculté de théologie, ma famille, Céline, mes enfants, et on était à peu près 25. Et on prenait le repas du Seigneur tous les dimanches. Et c'était une façon de faire. Il y avait le petit pain coupé en cubes, et puis il y avait aussi une coupe. Mais juste une coupe. Ce qui fait que on se passait la coupe. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça?
Non,
oui.
Non.
Oui. T'as sûrement des souvenirs toi aussi. Et on se passait à la coupe, à peu près à 25, et puis c'était du vin, évidemment, en France. C'était du vin. Et j'avoue que quelquefois, j'ai passé mon tour quand je voyais des miettes de vin dans la coupe, qui passaient comme ça. Mais c'était pas toujours le cas, mais disons, je sais pas ce qu'ils ont fait maintenant avec la COVID, mais la chose certaine, c'est que chaque endroit, chaque église a ses coutumes, ses manières de faire. Mais l'important, bien sûr, c'est de faire en mémoire d'eux. Je pense que toutes les églises chrétiennes authentiques prennent le repas du Seigneur en disant, nous faisons ceci en mémoire du Seigneur Jésus. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse mettre l'accent sur, justement, le fait qu'on va faire ces choses tout à l'heure en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut quand même admettre qu'on a un peu de difficulté avec les symboles, avec le monde symbolique. Et pourtant, on va voir que dans la parole de Dieu, les symboles existent et c'est important aussi de réaliser on peut approfondir en fait ce que nous faisons quand nous prenons le repas du Seigneur. Je pense que de fois en fois, on peut aller plus loin et de ne pas penser qu'on fait ça comme juste une routine. On va lire un texte qui est tiré de l'Épître aux Corinthiens, qui parle justement des paroles de l'institution qu'on appelle, les paroles que Jésus a prononcées. Et on le retrouve donc dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. L'apôtre Paul écrit ceci aux Corinthiens, il dit, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle. » En mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier pour ta présence au milieu de nous. Tu es là. Seigneur, tu nous assures que lorsque nous sommes rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous comptons sur ta présence, sur cette vie que tu peux nous communiquer en ce moment même, Seigneur. Cette parole qui peut devenir une parole de vie, Seigneur, sous l'action de ton esprit. Et c'est ce que nous te demandons, que cet après-midi, tu puisses nous vivifier par ta parole, par la vérité. Nous t'en prions, au nom de Jésus.
Amen.
Amen. Amen.
Paul Ricoeur a dit une parole qui est, que je trouve quand même intéressante. C'est mon philosophe préféré, Paul Ricoeur. Il dit ceci. La différence entre les jeunes et les vieux, c'est que les vieux ont beaucoup plus de souvenirs et beaucoup moins de mémoire. Et je pense que c'est vrai, n'est-ce pas, que les jeunes ont beaucoup de mémoire, mais pas beaucoup de souvenirs, parce qu'ils commencent dans leur vie, tandis que les vieux, on a beaucoup plus de souvenirs, mais un petit peu moins de mémoire. Hein? Non, on a tendance à oublier. Mais une chose certaine, c'est que il faut se rappeler que quand le Seigneur Jésus nous dit de faire ceci en souvenir de lui, c'est pas simplement un effort intellectuel, c'est pas simplement un effort cognitif ou simplement de la tête ou intellectuel, mais c'est vraiment tout un engagement quand on prend le repas du Seigneur. Je dirais que chez les Juifs, comme le pasteur Élise a prêché la semaine passée, hein, je me souviens, pasteur Élise a mentionné cet impératif qui est chez les Juifs de se rappeler, hein, de se souvenir, de se rappeler, et de son complément aussi qui est de ne pas oublier, de se rappeler de Dieu, de se rappeler de ses actions, de se rappeler de son salut, de se rappeler de ce qu'il a accompli. Donc, c'était très important chez les Juifs de se souvenir, de se rappeler. C'était présent en eux. Et même Moïse le dit à la nouvelle génération, à la prochaine génération qui va venir, il dit « Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. » Je pense que pour nous aussi, c'est important de réaliser que quand on prend le repas du Seigneur, on est en train, nous aussi, de se souvenir, d'entrer dans ce mouvement-là. Je pense que vous avez remarqué, mais Jésus, il ne dit pas « Souvenez-vous de moi ». Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et je pense que c'est dans la même continuité, c'est dans la même mouvance que ce qu'il a connu chez les Juifs. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose, en quelque sorte. C'est pas juste, comme je disais tantôt, un effort abstrait de la mémoire ou de la réflexion. C'est de dire, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est là qu'intervient l'idée des symboles. C'est là qu'intervient l'idée du pain et de la coupe. C'est là qu'intervient l'idée de tous les rituels qu'il y avait dans l'Ancien Testament. C'est qu'en faisant quelque chose pour se souvenir, on est engagé pleinement. On est engagé toute notre être, pas simplement réfléchir. C'est pas juste un exercice cérébral. Et je pense que quand on prend le repas du Seigneur, justement, il ne s'agit pas simplement de se forcer à penser, mais plutôt de le faire en étant engagé, en étant soi-même investi, en prenant le repas du Seigneur, en sachant ce que ça signifie. Si vous voyez le gâteau qui apparaît à l'écran, je suis convaincu que vous allez deviner qu'est-ce que ce gâteau-là symbolise? Est-ce que c'est un gâteau de mariage?
Non,
ben. Moi, c'est un gâteau d'anniversaire, hein? Juste en voyant les bougies qu'il y a sur le gâteau, en voyant derrière, évidemment, les cadeaux, on se rend compte que si vous voyez ça sur votre table et que vous arrivez après le travail et qu'il y a ça sur la table de la cuisine, vous allez peut-être dire, c'est pour qui? Et si vous regardez la date, vous avez peut-être dit, ben, c'est mon anniversaire aujourd'hui, quand on sort. Ils ont pensé à moi, hein, ils ont fait ceci en mémoire de moi, ils se sont souvenus de moi. Quand on voit donc ces bougies, ces chandelles, ce gâteau, on sait aussi qu'on va rentrer dans un rituel dans cette fête-là. Hein, probablement qu'il va y avoir des invités. Probablement qu'il va y avoir, on espère, des cadeaux. Probablement qu'il va y avoir un bon repas. Probablement donc qu'il va y avoir ce fameux gâteau-là. Donc, c'est tout. Quand on prend le repas du Seigneur, c'est qu'on se rend compte que en faisant le repas du Seigneur, on se souvient du Seigneur Jésus. C'est en rentrant dans une action ou un engagement. Je dirais que ce souvenir, c'est s'inscrire aussi dans un récit, c'est s'inscrire dans une histoire. Quand on prend le repas du Seigneur, on s'inscrit dans une histoire de l'Église, dans l'histoire du plan de Dieu. Il s'est répété de siècle en siècle. Ça fait longtemps qu'on prend le repas du Seigneur. Et moi, quand je prends le repas du Seigneur, et quand toi, tu prends le repas du Seigneur, je t'inscris dans ce grand récit-là. Je t'inscris dans cette grande histoire-là de l'Église. Tu participes, en fond, à ce récit-là. En faisant ça en mémoire d'eux. Et je dirais que c'est la même chose quand on fait la fête de la Saint-Jean. lorsqu'on met des petits drapeaux sur votre galerie, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi je fais ça. Donc, oui. Ou du Canada, ok, c'est correct, du Canada. Hein. Mais on fait un geste, n'est-ce pas? Ensuite, c'est sûr qu'à un moment donné, le soir de Saint-Jean, qu'est-ce qu'il y a le soir de Saint-Jean? Actuellement, il y a un feu de camp ou un feu d'artifice. Et donc, c'est tout ça, c'est symbolique. Et qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, et à un moment donné, tous les Québécois qui le veulent bien se rassemblent. On vient à un moment où on se souvient de je sais pas quoi, en fait. On essaie de se souvenir de quelque chose. Mais on est ensemble pour se souvenir en mémoire de. Et c'est la même chose, je dirais, le jour de souvenir en novembre. C'est la même chose aussi quand Dieu dit « Souvenez-vous des pauvres ». Qu'est-ce que ça veut dire « souvenir des pauvres » Est-ce que ça veut dire « je vais penser aux pauvres » Non, ça ne veut pas dire « je vais penser aux pauvres ». Ça veut dire « je vais faire quelque chose par rapport aux pauvres ». Je vais prendre soin des pauvres. Quand il dit « souvenez-vous des pauvres », c'est ce que ça veut dire. Quand il dit aussi « souvenez-vous des conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu dans Hébreux, considérez quel est le bilan de leur vie, imitez leur foi. » Alors, souvenez-vous de vos conducteurs. C'est donc, à ce moment-là, c'est se souvenir des gens qui nous ont devancés ou des gens qui nous ont précédés et qui ont été engagés dans l'œuvre de Dieu. Se souvenir d'eux, ça veut dire aussi que moi, je vais imiter leur foi, je vais embarquer, je vais m'engager, je vais m'investir. Ça va être une source d'inspiration. Prendre le repas du Seigneur, c'est la même chose. On prend le repas du Seigneur dans cette même pensée-là. Lorsque l'apôtre Paul dit, par exemple, à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts, qui est issu de la descendance de David, selon ma bonne nouvelle. » Qu'est-ce que Paul veut dire par rapport à Timothée quand il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ » Il ne veut pas juste dire « Pense à Jésus-Christ ». Il veut dire « Souviens-toi, rappelle-toi de lui » et que ça puisse t'emmener à vouloir persévérer, continuer, aller à travers les épreuves, poursuivre. C'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est pas simplement, quand on reprend le repas du Seigneur, c'est dans cette action-là, c'est dans cette attitude-là qu'on le prend, qu'on le fait en sa mémoire. Jésus, dans le même sens, donc, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça devient comme un engagement, un acte d'adoration, un acte de confiance et aussi de responsabilité. C'est un engagement, donc. Ça peut être aussi une source de changement quand on se souvient de l'apôtre Pierre. Ça lui avait été annoncé. Peut-être que vous vous souvenez de l'épisode. Jésus lui avait dit, tu vas me renier deux fois. Hein, quand le coq va chanter, tu vas m'avoir déjà renié. Et voici ce que dit dans Marc, chapitre 14. C'est écrit, aussitôt un coq chanta pour la seconde fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Il se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant qu'un coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié par trois fois. Alors, il se mit à pleurer. En se souvenant, ça l'a amené à changer d'attitude. En se souvenant, il a été amené à se repentir. Ainsi, le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui part de l'extérieur, qui s'en vient à l'intérieur de nous. C'est pas de l'introspection quand on prend le repas du Seigneur. Il ne s'agit pas de faire de l'introspection comme telle. Il s'agit plutôt de dire qu'est-ce que ça signifie. Le repas du Seigneur, le pain et la coupe, le fruit de la vigne et le pain, c'est un peu comme des icônes, des images, un peu en quelque sorte des vitraux à travers lesquels on voit l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu est vraiment présent d'une façon spéciale au milieu de nous lorsqu'on prend le repas du Seigneur. C'est donc dans cette attitude-là qu'on se souvient du Seigneur de Jésus, de tout ce qu'il a fait. Et je dirais que ça nous rapproche beaucoup de l'idée de l'alliance. Qui est de l'alliance, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est une entente qu'on fait entre deux partenaires. Et il y a toujours un engagement à s'investir et à agir dans une alliance. Et c'est ce qu'on voit justement dans le repas du Seigneur. Par contre, il y a une église, il y a un exemple d'une église, et c'est l'église justement de Corinthe. L'église de Corinthe n'était pas une église toujours exemplaire. Et qui, on voit qu'ils n'ont pas bien saisi, en fait, ce que ça signifiait que le repas du Seigneur. On peut voir ces passages-là dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, chapitre 10. Chapitre 11, déjà, il dit, en faisant la remarque suivante, donc l'apôtre Paul s'adresse à eux, « Je ne peux pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, ça n'allait pas très bien. Quand ils prenaient le repas, ils mangeaient ensemble, il y en a qui commençaient à manger, hein, ils commençaient à manger leur lunch, les riches mangeaient ce qu'il y avait, les pauvres, ils n'avaient presque rien à manger. D'autres étaient déjà enivrés, étaient déjà empiffrés. Et puis, il dit, vous n'avez pas compris, dans le fond, la signification du repas du Seigneur. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Faites ceci en mémoire de moi. Vous avez besoin d'être... On vous replace, en fait, le sens de le repas du Seigneur. Bien sûr, on n'a pas ces problèmes-là dans nos églises. Hein? À ce que je sache, on n'a pas ce genre de problème-là. Mais... on doit quand même comprendre comment l'apôtre Paul a voulu régler ce problème-là. Et dans ce sens-là, ça peut nous aider. Si on va à la prochaine diapo, toujours dans le Corinthien, l'apôtre Paul va aller vers un exemple de l'Ancien Testament pour expliquer justement le cadre dans lequel on prend le repas du Seigneur. Il va se servir d'images de l'Ancien Testament pour comprendre ce que signifie le repas du Seigneur. Et voici ce qu'il dit. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Et ce qui l'étonne, c'est que justement, il va vers l'Ancien Testament. Il dit, « Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? » Et donc, je pense qu'on a besoin de trouver une pertinence au repas du Seigneur en... si on voit l'autre diapo, en encadrant ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y en a qui aiment voyager?
Oui.
Oui, 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 c'est ça, voyager, hein? Et puis quand on voyage, qu'est-ce qu'on fait? On prend des photos. Et aujourd'hui, les photos, c'est sûr que ça reste pas mal virtuel, hein? Ça reste pas dans notre appareil photo où on les transfère sur notre ordinateur. Mais il y a eu une époque où, quand on allait en voyage, quand on se faisait, on faisait imprimer les photos, bien sûr, mais on les mettait souvent dans une boîte, hein? Puis ils se retrouvaient dans une boîte. Et puis, tant que les photos n'étaient pas encadrées ou n'étaient pas placées dans un album, ça n'avait plus de signification. Mais aujourd'hui, quand on prend des photos de voyage, puis on les encadre, ça met tout un sens. Hein? On retrouve des souvenirs encore davantage. Puis on ajoute une petite plume d'oiseau, un petit coquillage, ou on ajoute un petit quelque chose d'autre, ou je ne sais pas. Et ça fait en sorte que nos souvenirs sont comme encadrés. Je dirais que je pense que c'est la même chose pour le repas du Seigneur. Quand il faut l'encadrer, il faut le mettre dans un contexte bien spécial. Et pour ça, je pense qu'il y a un outil ou une façon de le faire. C'est ce qu'on appelle la typologie. Alors, la typologie, c'est pas une maladie. Non, je vous dis tout de suite, c'est pas une maladie. C'est pas un nouveau virus non plus. La typologie, c'est bien simple, en fait. C'est une étude des symboles qui sont dans la Bible. Je vous dirais d'une façon simple que dans les Écritures, un type est une personne ou un élément de l'Ancien Testament qui préfigure une personne ou un élément du Nouveau Testament. Donc, on peut penser, par exemple, à Jésus qui a été, soit un berger, on voit, il y a des bergers comme David, et puis on voit le vrai berger, on voit la vigne, hein, que Jésus est la vraie vigne, on voit la manne dans l'Ancien Testament, le pain, et Jésus est le vrai pain, la véritable manne, et ainsi de suite. Donc, on voit que c'est un type, c'est d'étudier des types. Et une figure qui est importante pour nous, qu'on oublie peut-être, c'est l'image, justement, du temple. Et l'apôtre Paul va utiliser cet exemple-là, comme on a vu tantôt, vous voyez les Israélites, c'est l'image du temple et des activités qu'il y avait dans le temple. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il va dire, « Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Que cet après-midi, rassemblés au nom du Seigneur Jésus, avec nos bottes d'hiver, avec nos jeans, notre coton ouaté, puis on forme le temple de Dieu. On forme le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Bien sûr, le vrai temple, c'est Jésus. Hein? Jésus remplace le temple. Et j'avoue que cette semaine, j'ai dit, Seigneur, tu vois grand pour nous. Parce que moi, là, je me vois pas vraiment le temple de Dieu. Mais ici, on est véritablement le temple de Dieu. Et la présence de Dieu est au milieu de nous, personnelle, réelle et authentique. Moi, j'aime beaucoup visiter les cathédrales. Hein, si vous avez visité les cathédrales Notre-Dame, Chartres, Saint-Paul à Londres, Vatican, j'aimais moins, hein, la basilique Saint-Pierre. Mais, hein, c'est moins bon. Enfin, bref. Chacun ses goûts. Mais cette idée de grandeur, de transcendance, hein, c'est pas, il y a comme une ambiance, un effet. Puis moi, j'aime quand même ça. Je sais pas si vous aimez ça. Peut-être que je suis trop mystique, là, ou je sais pas. Mais j'aime ça quand même rentrer dans des endroits où ça m'inspire la transcendance. On peut aller aussi dans une forêt de séquoia, hein, en Californie, puis avoir le même feeling aussi, hein. Je veux dire, quand c'est immense, sous les montagnes aussi, la nature, ça nous inspire. Et je me disais, mon doux Seigneur, c'était tellement, il me semble grand et beau, le temple de Jérusalem. Et puis, tu dis que nous sommes le temple. Et c'est là qu'il faut comprendre, encadrer, justement, quand on prend le rapport du Seigneur, réaliser qu'il est présent. J'aimerais qu'on regarde très rapidement quatre aspects du temple et qu'on puisse réaliser que c'est ce que nous vivons aussi en tant qu'Église. La première chose, c'est que c'est une habitation de Dieu. Le temple est vu comme ça. Pour les Juifs, c'est que Dieu habite dans le temple. C'est clair et net pour eux. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu se manifeste personnellement, authentiquement, réellement dans le temple. Dieu aussi, c'est un lieu où se rencontrent le ciel et la terre. C'est un espèce d'endroit ou de passage, de canal, de pont où le ciel et la terre communiquent ensemble, surtout dans le lieu très saint. C'est là qu'il y a une communication. C'est un peu comme l'armoire magique de Lucie dans Narnia. Et quand on est dans Narnia, il y a comme une porte que tu ouvres puis tu rentres dans un autre monde. Oui, le wow, André, fais attention. Mais quand même, c'est cette idée-là. Vraiment, pour le juif, c'est ça. On rentre dans le temple, on rentre dans la présence de Dieu. C'est comme en anglais, on dit « a thin place ». C'est comme une mince, comme une couche mince où le ciel et la terre se rencontrent. N'est-ce pas quand Jésus, c'est ce qui s'est passé? Le ciel et la terre étaient dans Jésus. Jésus a fait toutes les actions et les activités du temple. Il a guéri les lépreux. C'est juste au temple qu'on guérit les lépreux. Il a pardonné les péchés. C'est au temple qu'on reçoit le pardon des péchés. Pas à travers un homme. C'est pour ça qu'il était scandalisé, parce qu'il dit, toi qui pardonnes les péchés, c'est au temple qu'on fait ça. Et tous les miracles qu'il a fait, Jésus était le temple. C'était donc un endroit comme ça. Et quand on regarde les images du temple, on va voir le point 3 et 4 un peu plus loin, le temple, c'était extraordinaire, fantastique, c'est merveilleux. C'était, il y avait comme trois salles, trois divisions dans le temple. Il y avait la cour extérieure, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et ça partait de l'est en s'en allant vers l'ouest. Partant de l'est parce que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont été chassés à l'est. Et quand le temple était bâti de manière à ce qu'on parte de l'est, qu'on rebrouche chemin, hein, qu'on retourne le chemin, qu'on parte de l'est et qu'on s'en aille vers l'ouest, donc vers le jardin d'Éden. Et il y a trois paliers dans le temple. Il y a le premier palier, deuxième palier, troisième palier, qui est le lieu très saint. Donc c'était tout un cheminement que le grand prêtre faisait au nom du peuple de Dieu pour vivre ce moment-là. Et l'Église, c'est ça aussi quand on prend le repas du Seigneur, on s'en va vers le Seigneur Jésus. Si on va à la prochaine, ça, c'est le lieu saint. Et si vous pensez que dans le temple, il n'y avait aucun décor, aucune décoration, c'est faux. Il s'était décoré. C'était en or. Il y avait de l'or presque partout. Les chandeliers, il y a les chérubins que vous voyez. Il y a les fleurs ouvertes, il y a les palmiers. Et vous montiez, il y a l'autel de l'encens. Et ensuite, donc, vous montez encore un autre palier pour vous rendre dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche. L'arche de l'Alliance que vous voyez, avec deux chérubins par-dessus. Sur le dessus de l'arche, il y avait le propitiatoire. C'est-à-dire, c'est là que le grand prêtre déposait le sang. Le sang de la Nouvelle Alliance. C'est là que le sang de la Nouvelle Alliance était aspergé. Et pour le propitiatoire, parce que ça veut dire propitiatoire, ça veut dire pour être propice à Dieu, pour avoir une communion avec lui. Et les deux grands chérubins que vous voyez à côté gardent le jardin d'Éden. Parce que si vous vous souvenez, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, il y a des chérubins qui gardent, n'est-ce pas, le jardin d'Éden. On ne peut pas entrer pour manger l'arbre de vie, quand on lit dans la Genèse au chapitre 3. Et le temple représente justement le jardin d'Éden qui est là. On ne peut avoir accès. Et c'est pour ça qu'il y a des arbres en arrière, c'est pour ça qu'il y a des arbres où il y a des fruits. Ça représente le jardin d'Éden. Ça représente aussi le cosmos, ça représente le monde. C'était un petit monde et le prêtre entrait donc là une fois par année, quatre fois dans la journée pour offrir le sang, pour se rappeler qu'il y a une alliance qui avait été faite. Et dans l'arche, il y avait justement les tables de la loi, les tables de la nouvelle alliance. Si on retourne à notre troisième point rapidement, c'est qu'on voyait qu'il y avait là le règne de Dieu se manifestait dans le temple et que les directives les rectifications, la manière, si on voulait avoir une révélation de Dieu, on allait au temple. Lisez le psaume 73. Le psaume 73, pasteur Julien l'a prêché il y a quelques semaines, où on est tenté de vouloir être attiré vers les gens qui réussissent. Hein? Il dit, ah, je vois les gens qui réussissent, ah, je vois les gens qui prospèrent, eux autres qui n'ont pas de difficultés, et moi, pourquoi j'ai souffert tous ces temps-là, pourquoi je me suis sacrifié, pourquoi... Et j'ai pensé ces pensées-là qui étaient ridicules, et j'ai pensé ces pensées-là jusqu'au moment où je suis entré dans le temple, et que là, j'ai compris. Là, il a une révélation. Hein? Le psalmiste a une révélation. C'est là qu'on recevait, donc, les révélations. Et c'est là aussi que c'est un lieu où on rappelait le passé, le présent et le futur. Tout ça pour vous dire que nous sommes, il y aura beaucoup de choses à dire encore par rapport au temple, bien sûr, mais tout ça pour vous dire que nous sommes dans, comme ce temple, qu'on puisse réaliser que le Seigneur est présent parmi nous cet après-midi. Il est là. Il est là. Et donc, quand on prend un repas du Seigneur, comprenez-vous ce que ça veut dire? Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Il est avec nous. Fait que tantôt, on va manger ensemble. On va manger ensemble. On va faire ça comme une fête, comme un gâteau, comme une... On va se rappeler de nous. On va faire ça en sa mémoire, OK? D'accord? On va faire ça en sa mémoire. On va manger ensemble le pain, on va prendre ensemble la coupe, puis on va faire ça en sa mémoire. On va se rappeler de lui, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il peut faire pour nous. Mais plus que ça, on pourrait dire encore plein de choses par rapport au temple. Mais bon, pas ça, ça va faire. On va aller aux trois fêtes. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait dans ces fêtes? Qu'est-ce qui se passait? Quelles étaient les activités? Il y avait trois grandes fêtes. Au temple, trois grandes fêtes annuelles où tous les Israélites se rassemblaient à Jérusalem, au temple. Il y avait la fête de la Pâque, que vous connaissez probablement, la Pessah, hein, la fête de Pâque. Il y avait la fête de Pentecôte et la fête des Huttes. Et quand on regarde ces fêtes-là dans l'année, il y a comme une séquence dans le temps, une séquence temporelle, une séquence chronologique. La Pâque fait référence, on connaît bien assez bien la Pâque, fait référence à l'Exode, lorsque le peuple d'Israël était en esclavage chez les Égyptiens, et Dieu leur a demandé d'offrir un agneau sans défaut pour qu'ils puissent être libérés hein, de l'esclavage. Et donc la Pâque représente justement la libération de l'esclavage, la libération du péché, du mal, et de pouvoir être libre. Mais 50 jours plus tard, c'est ce que veut dire la Pentecôte, hein, c'est pas, ça n'a pas de rapport avec une côte, ni rapport avec une pente, ni rapport avec une pente côteuse ou quoi que ce soit. Pente, ça vient de pante conta, qui vient du grec, qui tente, il veut dire 50. Donc, ça veut dire, c'est, en fait, 50 jours. Et Shavuot, ça vient de Sheva, Sheva qui veut dire 7, ou semaine, ça veut dire la même chose, 7 Sheva. Et donc, c'est la semaine des semaines. Une semaine, c'est 7 jours, et la semaine des semaines, c'est 7 jours fois 7. Donc, ça fait combien, 7 fois 7? 49. Ça donne 49 jours. Mais il y avait aussi une journée après la Pâque où on offrait, c'est ce qu'on appelait l'offrande de l'orge, juste avant, et ça fait donc 50 jours. Ce qui fait qu'entre la Pâque et la Pentecôte, il y a donc 50 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour partir de l'Exode, pour traverser la mer Rouge et se rendre au mont Sinaï, là où Dieu a donné la loi, là où Dieu est apparu avec la fumée, le feu, il fait trembler la montagne, là où Moïse est allé chercher les deux tables de la loi, c'est là qu'il a donc été donné, et c'est là que se fait l'alliance. C'est là qu'il s'est fait une alliance entre Dieu et son peuple, Et c'est là aussi que Moïse, que les prêtres vont faire un animal pour le sang de l'Alliance, pour sceller l'Alliance, pour faire en sorte que l'Alliance soit confirmée par le sang des animaux, par le sang de l'Alliance. Encore, lorsque nous lisons les paroles de l'institution du repas du Seigneur, nous lisons « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle Alliance ». Ça n'a pas rapport avec la Pâque, ça a rapport avec la fête de Pentecôte. Et ensuite, il y a la fête des huttes qui venait plus tard. Et la fête des huttes, c'est une fête de cabane, c'est-à-dire que les Juifs se rassemblaient autour de Jérusalem, ils faisaient du camping pendant une semaine de temps pour se rappeler qu'ils étaient nomades, mais que ça ne resterait pas toujours comme ça, qu'un jour, ils vivraient dans un règne où Dieu régnerait pour toujours et qu'ils seraient prospères et dans le bonheur. Et donc ça nous tourne les regards vers le futur. Et c'est ce que Jésus dit dans ses paroles de l'institution aussi du repas du Seigneur lorsqu'il dit « Je ne boirai plus de cette coupe, mais j'en boirai avec vous dans mon royaume, quand le royaume sera établi. » Et c'est la même chose que l'apôtre Paul dit ici. Hein? Nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, donc son retour, jusqu'à son retour où là, toutes choses vont être restaurées. Et donc, le royaume de Dieu sera pleinement présent. Voyez-vous que le repas du Seigneur couvre toutes ces fêtes-là. Mm-hmm. Quand on parle du repas du Seigneur, je dirais qu'il y en a pour tout le monde. Mm-hmm. Dans ce sens que pour le pardon des péchés, pour la délivrance. Mais on n'est pas juste délivré de quelque chose, on est délivré pour quelque chose, pour vivre une alliance avec Dieu, pour recevoir les fruits de l'alliance. Et si on se concentre juste sur la fête de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Mais la Pentecôte, c'est la fête qui a deux dimensions. Je vais vite, là, parce que je vais venir encore réveiller. On va manger, ce sera pas long. La fête de la Pentecôte a deux dimensions. La dimension agricole, c'est-à-dire qu'on offre les premiers fruits du pays promis, de la terre promise. À la Pentecôte, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les Juifs qui étaient au temple arrivaient avec un panier, une corbeille, dans laquelle il y avait sept fruits de la terre promise. Et on offrait ça avec Dieu, et on mangeait avec les Lévites, et on mangeait avec l'immigré, celui qui venait de l'extérieur. On partageait. Ça, c'est une dimension de la Pentecôte. Mais l'autre dimension de la Pentecôte, c'est celle qui a une dimension historique, d'un événement historique, qui est justement l'alliance qui a été conclue au Mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? À la Pentecôte, il y a eu comme au Mont Sinaï. Il y a eu du vent, du feu, et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Et ce qui a été annoncé, c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle alliance qui s'est vraiment confirmée là. Car déjà dans Jérémie chapitre 31, on voit que le prophète dit un jour il va y avoir une nouvelle alliance. Un jour il va y avoir une alliance vraiment spéciale et personnelle. Et la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est que Dieu dit, je vais écrire ma loi sur le cœur de mes enfants. La Torah va être écrite. Ils vont pouvoir m'aimer de leur cœur. Pas m'aimer d'une façon extérieure ou par coercion ou par obligation, mais ils vont m'aimer de l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pentecôte? Le Saint-Esprit est venu. Et c'était la fête de la nouvelle alliance. Les fruits de la nouvelle alliance. Jésus a conclu la nouvelle alliance par son sang, mais nous avons vu les fruits de la nouvelle alliance à la Pentecôte, 50 jours plus tard. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre quand on prend son repas, c'est que il y a toute cette séquence-là qui est devant nous. On ne prend pas juste le repas du Seigneur pour, je dirais, nos pardons de péché, oui, certainement. Et peut-être que le Seigneur, ce matin, cette nourriture-là va être pour ça. Pour dire, bien, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Merci de m'avoir libéré. Mais on peut prendre la coupe en disant, Seigneur, puisque tu m'as libéré pour quelque chose. Tu m'as délivré pour quelque chose. Pour entrer dans cette nouvelle alliance. Et je aussi peux prendre la coupe en disant, et le pain en disant, je sais, Seigneur, que tu promets quelque chose pour moi. Je sais qu'un jour tu vas revenir. Et ce que je vis là, ici, maintenant, ce n'est pas le moment final, mais il y a encore mieux à venir. Tu vas revenir un jour. Et c'est ce qu'on annonce quand on prend le repas du Seigneur. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et on va prendre le repas du Seigneur. Donc, selon ce que vous vous avez besoin. La table du Seigneur, maintenant, est pour vous nourrir, pour me nourrir. De quoi ai-je besoin maintenant? Eh bien, la table du Seigneur peut vous nourrir ici, peut vous rassasier. Rappelons-nous que nous sommes aussi comme le temple de Dieu. Et on n'a pas à faire un gros effort de pensée. Ce qu'on a à faire, c'est de prendre la coupe, prendre le pain et de dire, je fais cette action-là. Comme quand on voit dans une fête quelqu'un qu'on chante joyeux anniversaire. Hein? On chante joyeux anniversaire, on participe en faisant une action. Et c'est ça qu'on fait quand on prend la parole du Seigneur. On le fait en mémoire de lui. Julien a composé un très beau chant sur la scène, la communion, l'Eucharistie, appelez ça comme vous voulez. Mais il a composé un beau chant, je pense que ça vaut la peine que vous puissiez écouter les paroles.